Il est 18h.
Salut! Si la curiosité est l'une de tes qualités, sache que chaque mois, l'équipe de l'Atome de Savoir t'invite dans le monde de demain. Enfin, dans le futur, quoi. Nous confrontons les sciences et la société sans en faire un fromage. L'Atome de Savoir, c'est un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
Bonjour, bonjour. Nous sommes le lundi 25 janvier, il est 18h, vous écoutez Radio Campus Paris, je reprends mes marques tout doucement en 2021. À 18h le lundi, c'est toujours la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour, bonne année à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un quart d'heure comme l'an dernier avec un jeune talent d'aujourd'hui qui prépare le monde de demain. Aujourd'hui, avec un peu d'avance, on passe à table, mais avec de la matière grasse, évidemment. Bonjour Victor Coutard.
Bonjour.
Bonne année à vous, merci d'être avec nous au téléphone. Vous êtes là parce que vous êtes journaliste et notamment l'auteur avec Gala Colette d'un livre chez First Edition dont le titre me donne faim, Au beurre. Alors, c'est un livre de cuisine qui reprend des recettes de cuisine avec du beurre. Comment est née l'idée de ce livre ?
Mon constat assez simple. Moi, je suis journaliste, je m'occupe beaucoup de questions de nourriture et je me désolais un peu en librairie, en bibliothèque, de voir que les rayons de cuisine étaient de plus en plus souvent remplis de livres sans gluten, sans lactose, des livres sans gras. Et je me suis dit, finalement, la cuisine, c'est aussi avant toute chose un plaisir et qu'il fallait faire peut-être un livre avec. Et comme je suis fils de Picard et que le beurre a toujours été important pour moi, je me suis dit, avec ma femme, donc Gala, que c'était une bonne idée d'écrire un livre sur le beurre, qui est à la fois un aliment patrimonial et un aliment un peu ringard en ce moment, qu'on s'est amusé à remettre au goût du jour.
C'est pour ça qu'avant, puisque c'est votre femme, je ne le savais pas, Gala Colette, vous aviez déjà écrit un livre qui s'appelle « J'aime le gluten ». Vous vous emportez un peu, j'ai envie de dire, contre une certaine pensée correcte sur le manger ?
Oui, enfin, c'est surtout qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'orthorexie. C'est l'obsession de manger sainement. Et il y a de plus en plus de personnes qui choisissent leurs aliments et qui choisissent ce qu'ils mangent en fonction de tendances nutritionnelles qui changent assez régulièrement. Et en fait, cette obsession, comme toute obsession, elle peut être aussi malsaine parce qu'elle empêche souvent les consommateurs de s'attaquer aux vrais ennemis, aux vrais problèmes. Je pense à l'industrie agroalimentaire, je pense aux produits extrêmement transformés, trafiqués. Et ce qu'on a voulu défendre dans I Love Gluten comme dans le beurre, c'est que ce qui est essentiel, c'est de bien choisir ses aliments et de bien les équilibrer avec d'autres aliments qui sont eux aussi bien choisis. Comme le disait l'inventeur de la toxicologie, en fait, tout est poison et rien n'est poison. La seule différence entre un poison et un aliment qui n'en est pas un, c'est l'excès, en fait. C'est une question de dosage. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais aliments en soi. Il y a des problèmes de dosage et surtout, il y a des problèmes de fabrication et de production.
Si je vous dis que mon plat préféré, c'est une tranche de bon pain avec du beurre, je suis votre ami, donc ?
Ah bah absolument.
Au-delà de ça, et de la blague, de ce que vous venez de dire sur l'orthorexie, il y a toute la tendance autour du régime crétois, de l'huile d'olive. Est-ce que c'est ça qui a tué le beurre et donc vous n'irez jamais en vacances en Crète ?
Non, moi j'adore l'huile d'olive, j'en suis aussi un gros consommateur. Non, ce qui a tué le beurre, déjà c'est le beurre lui-même. Il faut savoir que le beurre c'était un des premiers produits qui a obtenu une protection légale, ce qui fait qu'en fait l'industrie du beurre a pu très très vite s'organiser et finalement s'uniformiser et perdre un peu de sa saveur. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que le beurre a été victime d'attaques injustes et notamment d'attaques qui ont été fomentées par le lobby du sucre. On sait désormais que aux États-Unis, le lobby du sucre a accusé le beurre d'être le responsable de tous les maux qu'on a commencé à voir se multiplier à la fin des années 60, les problèmes de cholestérol, les crises cardiaques, etc. Et on a dit que le beurre était responsable de toutes ces maladies, alors qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Et on sait surtout, ce qui est pire et ce qui est quand même assez effarant, que c'est le lobby du sucre qui avait commandité ces études pseudo-scientifiques pour pouvoir vendre du Coca-Cola à tour de bras et sans être inquiété par les clients.
Oui, il y a le film, à cet égard, je conseille à tout le monde de regarder s'il le trouve, le film Sugarland. Une question toute bête, je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs le savent, donc comment fabrique-t-on du beurre ?
Bah en fait, le beurre, c'est assez simple, c'est du lait et de l'huile de coude, en grosso modo. Finalement, on obtient du beurre en battant la crème du lait. Et donc, il y a plusieurs procédés pour battre cette crème. Mais la légende dit que les premiers beurres, c'était simplement des cavaliers mongols qui mettaient des jarres de lait au cou de leurs chevaux et qui, avec le balancement de l'animal, formaient du lait, qui devait sûrement n'avoir rien à voir avec le beurre que l'on consomme aujourd'hui. Mais c'est ça la légende.
Et vous êtes plutôt beurre nature ou beurre salé ? Est-ce que vous avez une religion très stricte ? Quand on aime le beurre, on doit le manger d'une façon ou d'une autre ?
Non, moi je suis ouvert à tout. J'ai un petit faible pour le beurre salé, mais du beurre doux, un bon beurre de froment du Léon, je cracherai pas dessus.
Oh, oui, parce qu'en plus aujourd'hui on trouve des beurres parfumés, par exemple avec des algues et d'autres produits. Ça, vous acceptez ou c'est déjà du marketing ?
Plus que du marketing, c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres, parce qu'il n'y a rien de plus facile à faire qu'un beurre parfumé. Et le beurre parfumé que vous allez faire chez vous, il vous coûtera moins cher et il sera certainement meilleur que celui que vous allez trouver dans le commerce.
Alors dans le livre, il y a 60 recettes, vous les avez sélectionnées comment ? Parce que finalement du beurre, il y en a dans tout, si on ne va pas dans les livres de cuisine sans beurre.
En fait, il y a eu deux façons, ou deux ou trois façons de chercher des recettes au beurre. La première, c'est en ouvrant des livres de cuisine patrimoniaux. Je pense à Ginette Mathieu. Ginette Mathieu, c'est la bible de la cuisine française classique, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que c'est toutes les recettes que vous connaissez par cœur, le gratin dauphinois, le poulet rôti, le pot-au-feu, mais des proportions de beurre qui sont hallucinantes et qui sont plus du tout adaptées à l'époque. Donc une de nos idées, c'était aussi de revoir un peu les proportions, parce que je vous dis que le beurre n'est pas dévastateur pour votre santé, mais il faut quand même respecter une certaine quantité. Et du coup, l'idée, c'était d'être plus en raccord avec ce qu'on sait aujourd'hui et avec les goûts d'aujourd'hui. Donc ça, c'était une façon de rechercher des recettes, réadapter des vieilles recettes d'autrefois et les mettre au goût du jour. Et puis l'autre, ça a été on a appelé nos amis, on a la chance d'avoir des amis cuisiniers, des amis.
Vous avez la chance d'avoir des amis déjà, c'est bien.
Par les temps qui courent. On a des amis et on a d'autant plus d'amis qu'en cuisine, ça c'est connu. Et du coup, on a un copain suédois qui nous a donné une recette de patates, un copain iranien qui nous a donné une recette de riz. Et petit à petit, on a fait un livre un peu bigarré comme ça, dont je suis assez content.
Très bien. Est-ce que tous les beurres ont le même goût ou sinon, en fonction de quoi ils changent ? L'alimentation des vaches, par exemple, à la saison ?
Oui, alors ça, c'est très important et c'est même un peu la raison d'être du livre. On a l'habitude d'une plaquette de beurre achetée en supermarché, d'une couleur blanc cassé. En fait, le beurre, c'est un produit de saison. Le beurre dépend d'abord de l'espèce de vache, parce que d'une race à l'autre, le lait va être plus ou moins gras, et ensuite de ce que mangent les vaches. Un beurre du printemps, qui va être le résultat d'un lait de vache qui broute des pâturages pleins de fleurs et d'herbes grasses, ce lait il va être très jaune, quasiment bouton d'or, très savoureux. A contrario, un beurre d'hiver, c'est un beurre qui va être le résultat d'un lait issu de vaches qui mangent généralement des herbages secs et qui donc du coup va être beaucoup plus blanc. Donc il y a des grosses disparités selon le type de vache et selon la saison et selon évidemment l'environnement, parce que les végétations ne sont pas les mêmes si vous êtes en haute montagne que si vous êtes dans le bocage normand.
La relève sur Radio Campus Paris.
Alors l'occasion était trop belle, Victor Coutard, il est 18h09, depuis le temps que je rêve de donner l'heure en direct à la radio, ma vie est réalisée ce soir. Il est donc 18h09 et 43 secondes sur Radio Campus Paris, certains s'activent peut-être en cuisine, le couvre-feu est là. Est-ce que vous pouvez nous donner une recette à cuisiner avec du bon beurre ?
Ah, je peux vous en donner plein. Là je pensais à une recette qui est de saison, qui est très facile, en fait, c'est tout simplement de cuisiner des fruits de mer. J'y pense parce que j'étais hier sur le marché, donc pour tous les étudiants qui peuvent aller au marché de Belleville, il faut acheter un kilo de coque. La coque est à 9 euros. Alors, un kilo de coque, c'est pour 4 personnes. Hein. Un kilo de coque, c'est 9 euros. Vous pouvez nourrir 4 personnes à l'aise. Il faut un peu de persil, une tête d'ail, éventuellement une bière et évidemment du beurre. Vous faites tremper vos coques dans l'eau salée pour qu'elles dégorgent un peu et qu'elles n'aient plus de sable. Mmh. Ensuite, vous faites laisser tremper pendant une demi-heure, une heure. Et puis, vous faites fondre du beurre. Allez-y franco avec le beurre, une bonne lichette de beurre. Vous faites fondre tout ça. Vous rajoutez vos coques. Vous écrasez la tête d'ail. Vous rajoutez un fond de verre de bière ou un fond de verre de vin blanc, si vous l'avez sous la main, sinon on peut s'en passer, mais ça aromatise. Et puis vous laissez sur feu assez fort, généralement 3, 4, 5 minutes, le temps en fait tout simplement que les coques s'ouvrent. Vous pouvez mettre un couvercle pour accélérer le processus. Et en fin de cuisson, vous ajoutez du
beurre.
Persil.
Ah, pardon.
Du beurre et du beurre, si vous voulez une sauce plus consistante. C'est une recette en fait très simple et très bonne et très très de saison. Donc, voilà.
Super. Vous êtes journaliste par ailleurs, vous travaillez pour le magazine Regain, vous militez pour une agriculture de qualité. Donc ce livre, c'est une sorte de prolongation, mais est-ce que c'est quelque chose que peuvent s'offrir les étudiants qui nous écoutent ?
Ah oui, c'est quelque chose auquel on a beaucoup tenu. Aucune recette n'a plus de 10 ingrédients. C'est souvent des ingrédients qu'on peut trouver dans n'importe quel marché, dans n'importe quelle épicerie en France. Et c'est que des recettes très simples. Moi, ma spécialité, c'est les ingrédients, en fait. Plus que les recettes, je ne suis pas cuisinier. Je n'aime pas spécialement suivre des recettes. Ce que j'aime, c'est les ingrédients et les mettre en valeur. Et c'est aussi ça, le principe du beurre, c'est une cuisine très instinctive et c'est une cuisine qui met en avant la qualité des ingrédients. L'idée de cuire au beurre, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle s'est imposée, la cuisine au beurre s'est imposée en France, c'est une cuisson exhausteur de goût. Ainsi, quand on cuit un légume au beurre, il garde sa saveur. Quand on cuit un poisson au beurre, il garde sa saveur. Et ça, c'est très important et ça a beaucoup de valeur. Et du coup, c'est aussi l'écologie que je défends, c'est-à-dire une écologie du plaisir, une écologie heureuse et pas une écologie de restriction.
Quand vous dites exhausteur de goût, c'est pas quelque chose justement qui même le sublime le goût ?
Oui, on peut dire sublimeur de goût. Alors après, tout dépend des recettes, mais le livre est séparé en plusieurs chapitres. Le beurre peut être un exhausteur de goût, le beurre peut être un liant, le beurre peut servir à dorer. Il y a différentes façons de cuisiner le beurre. Mais c'est vrai que pour des aliments fragiles, les légumes, le poisson, les fruits de mer, le beurre va accompagner le goût naturel de chacun de ces aliments, à la condition évidemment de bien le cuire. Et c'est ce qu'on explique dans le livre. Le beurre, c'est un point de fumée très bas. Le point de fumée, c'est le degré auquel un aliment se détériore et donc perd de ses qualités intrinsèques. Ainsi, le beurre a un point de fumée à 130 degrés, alors que l'huile d'olive a 200 ou 210 degrés, pour vous donner un ordre de comparaison. Ce qui fait qu'il ne faut jamais cuire un beurre trop fort.
Ouais,
le beurre, c'est une cuisine de la douceur, il faut être tendre, il faut être gentil. C'est pas pour frire, c'est pas pour violenter les aliments.
Ouais, c'est ça, ce qui a fait beaucoup de mal au beurre, c'était ces beurres dans des poêles qui noircissaient et les viandes cuites horribles. Non,
enfin, j'ai l'impression que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse pour votre santé, c'est mauvais pour votre santé, c'est mauvais pour votre palais. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Si vous voulez en fait frire, si vous voulez faire du chauffer fort, il faut faire ce qu'on appelle du beurre clarifié ou ce que les Indiens appellent du ghee. C'est très simple à faire. En fait, il suffit de faire fondre du beurre assez lentement dans une casserole et d'enlever le bas beurre. C'est une espèce de résidu de résidu de lait que vous allez pouvoir enlever parce qu'elles vont flotter à la surface du beurre. Et en fait, vous allez récupérer une sorte de liquide blanc qui, lui, va pouvoir être chauffé à 250 degrés. Et ce beurre clarifié là va vous permettre de faire les meilleures frites que vous avez jamais mangées dans votre vie, par exemple, ou de dorer un poulet, ou ce que vous voulez en fait.
Vous avez aussi écrit un livre, un guide du mangeur écolo, un autre sur la permaculture. Donc comme vous disiez, c'est le produit. Alors ces produits, on les trouve facilement à Paris, mais en dehors de Paris, j'imagine qu'on les trouve facilement à Paris, mais en dehors de Paris, on peut les trouver aussi.
Oui, on peut les trouver. Aujourd'hui, c'est vrai que dans les grandes villes, on a un accès à de bons produits qui est de plus en plus facilité. Faut bien se rendre compte qu'on mange beaucoup mieux que nos parents, on mange beaucoup mieux que nos arrière-grands-parents, peut-être pas nos arrière-grands-parents, mais en tout cas que nos parents. Et en campagne aussi, un des seuls points positifs de la période de confinement actuelle, c'est le développement par les petits producteurs de circuits courts qui permettent d'aller acheter directement à la ferme. Mes collègues Gilles Cousin et Zazie Tavissian, Anne-Claire Hérault et Céline Maguet ont créé un formidable site internet qui s'appelle le Marché Vert, Vive le Marché Vert, et qui est une carte qui répertorie tous les producteurs locaux partout en France. C'est très pratique parce que où que vous soyez, vous vous rendez compte que pas loin de chez vous, il y a un maraîcher, il y a un éleveur, il y a quelqu'un qui fait des bons produits. Et de mon expérience professionnelle, ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que une des seules choses qui manquent pour pouvoir donner un coup d'accélérateur à la transition écologique, c'est de donner le sentiment à toutes ces personnes qui essaient de bien faire qu'elles ne sont pas seules et qu'elles font partie en fait d'un réseau qui couvre toute la France et toute l'Europe, de gens qui en fait permettent à tout le monde de mieux manger.
Oui, puisque vous rappelez à l'instant, c'est que peut-être manger moins, ça peut être aussi manger mieux parce que c'est de la meilleure qualité et que ça a un goût meilleur. On n'a plus beaucoup de temps en 30 secondes. Juste un mot sur Gros Dodo, un livre qui doit sortir chez Gallimard Jeunesse. Ça, c'est tout à fait autre chose. C'est une activité annexe que vous avez
En fait, c'est ma première activité. Je fais des livres pour enfants. Là, je sais peut-être que les étudiants qui nous écoutent sont trop jeunes, mais c'est un livre pour aider les parents à coucher leurs enfants afin de pouvoir dîner tranquille.
Et pour pouvoir dîner tranquille. Donc, on reste toujours dans le monde de l'alimentation. Non, ce soir, vous allez manger des coques?
Ce soir, je vais manger une autre recette de mon livre avec laquelle j'ai hésité à vous parler. C'est des endives braisées au jus d'orange.
Ah bah très bien. Écoutez, on ira voir dans votre livre alors, parce que le temps avance malheureusement. En tout cas, je vous remercie, Victor Coutard, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir au téléphone. Merci beaucoup.
Merci
à vous. C'était La Relève, proposée, préparée, présentée par Christophe. La réalisation était signée par Antonin. Normalement, ça s'entend. On se retrouve dans 15 jours, si tout va bien. D'ici là, passez une bonne soirée à l'écoute du programme de Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.